Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, dernière partie d'Estelle Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h avec Baptiste Desmonts, Estelle Mellul, Jérôme Lavrieux et Victor Pourchet. On va parler de nos enfants dans un instant. Nos enfants qui ne marchent plus puisqu'ils font du vélo cargo, du globeur, de la draisienne, de la trottinette. Est-ce qu'il faut forcer nos enfants à marcher? Si vous êtes parents, appelez-nous au 3216 ou réagissez sur le WhatsApp, Victor.
Au 06 12 424 424. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents qui nous envoient même des petites photos de leur maman sur les deux pattes.
Eh bien, continuez à nous appeler et à réagir sur le WhatsApp. 14h25, le tu préfères voir le film ou lire le livre, en plein Harry Potter, par exemple l'adversaire, l'étranger. On en débattra à 14h25. On parlera d'RMC dans RMC Conso, du verrier Duralex en grande difficulté. Vous savez qu'il y a beaucoup de Français qui ont mis de l'argent dans Duralex. Reverront-ils leur argent? On vous donnera la réponse avec Charlotte Mériton, puis on terminera avec les immanquables, Victor.
Et un appel, l'appel de l'établissement français du sang, c'est le moment de donner. Après ce mois de mai, les jours fériés, ça fait pas du bien pour le don du sang. Vous l'entendrez.
Et ça, ce sera à 14h40.
RMC, Estelle Midi.
14h05 sur RMC et on s'intéresse tout de suite à la recommandation du jour. Et c'est celle de l'OMS sur l'activité physique des enfants. Écoutez bien, selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque petit de 1 à 4 ans devrait faire 3 heures d'activité physique par jour d'intensité diverse. Et surtout, cet enfant ne devrait jamais rester attaché plus d'une heure d'affilée dans sa poussette, par exemple. Alors, ça peut sembler naturel, mais avec l'essor des vélos cargo, des trottinettes, des globeurs, de draisiennes, nos enfants font de moins en moins d'efforts, Victor.
Oui, c'est le journal Le Figaro, qui décrit des scènes qu'on voit de plus en plus. Ces sorties de crèches envahies par des engins à roulettes de toutes sortes, de la poussette au vélo cargo, en passant par le globeur. Alors, pour ceux qui ne sont pas vraiment familiers, on est entre la trottinette et le mini vélo pour les enfants. Bref, pas beaucoup d'enfants debout sur leurs deux jambes, parce que c'est plus facile pour les parents, parce que ça va plus vite que de le traîner par la main. Si on rentre dans les détails des recommandations de l'OMS, il y a effectivement cette heure d'affilée qu'il ne faut pas dépasser en position attachée, c'est 3 heures d'activité physique minimum. Et il y a aussi un autre problème, les écrans. L'OMS dit 0 écran avant 2 ans, grand maximum 1 heure jusqu'à 4 ans. Eh bien, le compte n'y est pas, puisque les derniers chiffres de 2022 nous disent que le temps moyen par jour pour un petit Français de 3 à 5 ans et de 1h22 devant les écrans. Et puis le danger, c'est aussi
rien.
C'est
énorme,
Oui, c'est vrai que c'est assez élevé.
C'est 1h22 à marcher, je me dis, mais c'est rien du tout.
Ah non, c'est 1h22 devant les écrans, et c'est déjà au-dessus, cette moyenne des recommandations de l'OMS. Le danger, c'est qu'on installe de mauvaises habitudes pour plus tard. Par exemple, en primaire, sachez qu'un tiers des élèves ne pratiquent pas de jeux en plein air au moins une fois par semaine quand il y a école. Et ça fait que les ados et les enfants français sont les plus inactifs, parmi les plus inactifs du monde. Un classement nous place à la 119e place sur 146, avec les risques que ça implique pour la santé. Par exemple, tenez, pour les chiffres des enfants en surpoids, en France, près de 17% des enfants sont concernés, et ce chiffre, il a doublé en 40 ans selon Santé publique France.
Alors, faut-il forcer nos enfants à marcher? Je commence avec vous, Baptiste Desmonts, vous en avez 4.
Oui, mais
vous avez un vélo cargo. Vous êtes toujours à avoir un vélo cargo.
Non, je sais que vous auriez vachement aimé que j'ai un vélo cargo et tout.
Vous avez la tête à avoir un vélo cargo,
mais j'ai pas le vélo cargo.
D'accord, bon, c'était très bien.
Et moi, les miennes, elles sont grandes maintenant, donc quand elles étaient petites, est-ce que j'ai eu le... Moi, j'ai eu plus la draisienne, mais c'était plus pour lui apprendre à... Moi, en fait, ça faisait plus, elle faisait plus de sport avec cette draisienne. Après, moi, j'ai une petite qui est un peu super, hyper active.
D'accord.
Donc, j'ai pas trop ce problème-là. Mais effectivement, je vois, j'ai l'impression quand j'étais petit, par exemple, elle a 8 ans, bientôt 9. J'ai l'impression quand j'étais petit, moi, je revenais à pied de l'école.
Oui.
Aujourd'hui, et je mets à coup le pas, c'est de ma faute, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus flippé que mes parents ne l'étaient. Il y a pas plus de risque pour un enfant aujourd'hui de rentrer à pied que hier. Mais on les surprotège. Donc moi, elle rentre.
On va les chercher.
Après, moi, elle fait beaucoup de sport. Elle fait 2 fois du sport par semaine. Elle fait de la natation. Elle fait du hip-hop. Puis quand j'entends ces enfants qui font pas de jeux de plein air, qu'est-ce qu'ils font à l'école? Parce que moi, il y a une école à côté de chez moi. On entend les gamins, ils hurlent, ils courent dans tous les sens. En plus, c'est plutôt un peu les garçons qui sont au milieu de la cour de récré qui prennent tout l'espace. Mais en fait, oui, je pense qu'il faut les faire marcher, il faut les habituer dès le plus petit âge à faire du sport, parce que c'est bon, quoi, parce que ça fait du bien.
Mais en fait, on se décharge de tout. C'est-à-dire qu'on se dit, ah bah tiens, oh la petite, elle va crier, elle va pleurer parce qu'elle a pas envie de marcher, donc tu la prends dans les bras.
Ah, mais ça, c'est insupportable.
Ou alors, tout simplement, tu te dis, bon, je vais l'amener en voiture, comme ça, ça ira plus vite, etc. Et en fait, le truc, c'est qu'on ne veut plus perdre du temps. Bah oui, effectivement. Ah, ouais, et puis, aller avec son enfant à l'école, même si c'est à 500 mètres, et le faire marcher, bah, c'est l'occasion de discuter avec lui, etc. Mais aujourd'hui, on est toujours pressé. Alors, oui, on préfère prendre le vélo et l'amener, la voiture, le bus, etc. Mais en fait, on ne marche plus. Puis après, bah, on a des enfants et on a fait le sujet il y a pas longtemps, bah, qui ne savent même plus courir, en fait, et en sixième, ils sont incapables de courir.
Qui ont pas le goût de l'effort.
De courir 5 minutes. Bah, exactement.
Le goût de l'effort.
Vous voulez rajouter un truc, Victor?
Oui, sur ce chiffre, c'est près de la moitié des élèves de 6e qui ne parviennent pas à réaliser un effort physique considéré comme basique. C'est vraiment courir quelques minutes.
Jérôme Lavrieux, est-ce qu'il faut faire quelque chose, voilà, pour nos enfants? Est-ce qu'on est devenu feignant et donc on a rendu nos enfants feignants?
Quand je vois les vélos cargo, je me dis ils doivent bouffer bio matin, midi et soir chez eux. Et ils transportent leurs gamins au lieu de les faire marcher à pied.
Oui.
Je trouve ça tellement hallucinant. Mais il y a aussi, il faut pas désespérer, il y a plein de communes qui mettent en place des mesures. Par exemple, le Bédibus. Bédibus, c'est un bus à pied.
Ah, c'est génial.
Vous avez un animateur qui prend les rues du village et les gamins, on sonne et le gamin, il sort. Et ils ont tous leur chasuble jaune, là. Et ils finissent par arriver à l'école. Au début, ils sont deux. Puis à la fin, ils sont 25 quand ils arrivent à l'école. Et ça les fait marcher matin, midi et soir. Donc ça, c'est vachement bien. Donc faut pas désespérer de ça. En province, ça se fait de plus en plus.
Alors, Yael, je reviens vers vous dans un instant, mais on va prendre Églantine en ligne, qui nous appelle de Pornichet, en Loire-Atlantique. Elle est ingénieure navale et elle a un exemple à nous raconter. Églantine, bonjour.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Bonjour.
Et alors, ce week-end, vous étiez à Disneyland et il y a un truc qui vous a choqué, Églantine.
Oui, alors en fait, exactement, je rentre de Disneyland, j'y suis allée avec ma petite fille de 6 ans et demi. Mmh. Et donc, le deal, c'est on va à Disneyland, eh bien, on prend des bonnes baskets parce qu'on va marcher toute la journée. Ouais. Et donc, bah voilà, avec ma fille, on a fait 20 000 pas par jour, on est resté 3 jours. Voilà, donc le soir, bah, on est fatigué, mais ça fait partie du jeu si on veut aller voir les princesses et faire les attractions. Par contre, ce qui m'a vraiment choquée par rapport à ma dernière visite, ça faisait que 2 ans, c'est que, en fait, j'ai vu énormément d'enfants de l'âge de ma fille, voire plus grand, hein, donc vraiment des primaires, qui sont dans des poussettes qu'on peut louer à la journée et dans des petites chariotes de plage, vous savez, les petites chariotes pliantes là qu'on trouve, voilà. Et ils sont en poussette et c'est les parents qui les traînent. Et du coup, comme ils ne marchent pas, bah, qu'est-ce qu'ils ont dans les mains? Bah, le seau à popcorn, le verre de soda. À l'effigie de leur personnage préféré.
Et
je me suis dit, mon Dieu, mais c'est vraiment là, on fabrique des obèses en fait, parce que en fait, ils passent leur journée en chaise roulante, alors que je veux dire, ils n'avaient pas de problème. Et bien sûr, il y a des enfants qui peuvent être handicapés ou autre, mais là, c'était vraiment pas le cas. En fait, c'était des enfants qui étaient clairement capacitaires. Et quand j'ai discuté parfois dans les files d'attente avec des parents comme ça, je leur dis, ah ben alors, vous pouvez plus marcher. Ils font, oh non, mais sinon ils commencent à crier, à faire des crises. Comme ça, et puis comme ça dans la file d'attente, bah ils regardent un écran.
Oh là là,
mon Dieu.
Voilà, et je me suis dit c'est quand même incroyable parce que c'est quand même un lieu où je veux dire la marche n'est pas pénible. Il y a des choses à regarder partout. Enfin, c'est un parc d'attractions, donc on peut pas se dire c'est le long d'une route pendant 3 kilomètres, c'est long. Non, en fait c'est magique comme endroit pour un enfant. Et même là, en fait, bah je me pose dans une poussette, j'attends qu'on me pousse, je passe mon temps à manger et à être regardé un écran le moindre moment de l'attente entre deux attractions. Voilà.
Bah écoutez, merci pour ce témoignage et c'est assez fou ce que vous racontez, mais ça corrobore ce que disent beaucoup de parents. Puis après, ce qu'on voit au final, que ce soit à l'école primaire ou au collège où les enfants ne savent plus quoi, bah, si on ne sait pas marcher, a priori, on ne saura pas courir non plus. Merci beaucoup, Églantine, d'avoir été avec nous. Et c'est vrai, Yael Mellul, vous avez eu un fils, puis on a été enfant quand même. On a l'impression qu'on marchait 10 fois plus avant quand même.
Ah non, mais moi je suis stupéfaite de ce que j'entends. Enfin, moi, je parle même pas de mon enfance où je passais ma vie dehors. J'étais toute la journée dehors, courir, jouer. Enfin, je veux dire, et on marchait pour aller à l'école. Enfin, j'ai l'impression que c'est une autre planète.
On allait en forêt le week-end.
Tout le temps dehors, quoi. Et mon fils, déjà à l'école, on y allait à pied. Le matin, l'après-midi, les courses à pied, au parc, dès qu'on pouvait. pour prendre l'air. Enfin, je veux dire, c'est même quand il pleut, en fait, faut sortir. Faut. Et puis les gamins, ils ont besoin.
On voit de moins en moins d'enfants. Mais quand oui. Il pleut, dehors. Hein.
Mais oui, il faut. Enfin, les gamins, ils ont besoin
aujourd'hui,
de dépenser.
Tu veux dire, leur... tu veux regarder un film?
Ben ouais, alors mais non, ils ont besoin.
Va jouer.
Mais oui, ils ont besoin de dépenser de l'énergie, en fait. Enfin, pour moi, ça me semble être de la normalité. Et à côté de ça, faut les inscrire à des sports.
Bah oui.
Faut les inscrire à des sports. Moi, c'était judo, foot, tennis, et après ce qu'il affectionnait le plus, en fait. Enfin, je veux dire, mais c'est vrai que ça demande de l'effort pour les parents. Et voilà, oui. Le dimanche matin, il y a pas de grasse mat. Hein. Il faut se réveiller, faut aller l'emmener, faut l'attendre. Ouais. Il faut assister au match. Il faut. Ah bah ouais, mais c'est ça faire des gosses, en fait. Ça, dire, ça emporte responsabilité. Ouais. On est responsable de notre enfant. Et on est là aussi pour leur inculquer ce qu'il y a de plus sain, en fait. Donc, ça participe. Voilà, on doit leur transmettre des rituels, un mode de vie sain, quoi, en fait. Et la marche. La
en fait,
course.
On veut plus s'adapter à eux. C'est-à-dire qu'en fait, on a peur que l'enfant fasse une crise parce qu'il veut pas marcher.
Bah ouais,
donc, on a
non,
peur du regard
ça,
des autres. Et on le fout dans une poussette.
Ouais, mais c'est ça l'éducation. Bah, oui, il faut leur apprendre la frustration. C'est comme ça qu'on éduque un enfant.
À ce moment-là, t'achètes un Tamagotchi, ça sera moins chiant qu'un enfant.
Bah ouais, je suis d'accord.
Franchement.
Oui, c'est vrai, enfin, le Tamagotchi, faut pas oublier de le nourrir non plus.
Ouais, ouais.
Sinon, il meurt. Victor, beaucoup de messages sur le WhatsApp.
Oui, on a d'abord Max qui se demande si ce n'est pas un problème plutôt lié aux grandes villes qu'à la campagne. Il nous dit, moi je suis à la campagne, ma fille a fait 3 fois du sport par semaine, ouais. Et mon fils de 2 ans, essayez de le mettre dans une poussette, vous avez l'impression de vous battre contre un crocodile. On a Jérôme qui lui nous dit, j'ai été opéré pour perdre du poids et c'est là que je me suis rendu compte que le mouvement est trop important et il nous détaille ensuite l'activité physique qu'il impose plus ou moins à ses enfants. Et puis Laurent et Laurence, ils ont à peu près le même prénom et à peu près le même message aussi. Laurent nous dit, les enfants font ce que nous leur montrons et oui. Laurence abonde en disant, si on ne montre pas l'exemple comme certains parents qui prennent la voiture même pour les petits trajets.
Hervé est avec nous, il nous appelle de Montreuil en Seine-Saint-Denis, il est manager en restauration et il a une petite fille de 2 ans et demi. Bonjour Hervé.
Bonjour Estelle, bonjour au plateau.
Alors Hervé, ça va être intéressant d'avoir votre témoignage, vous êtes en plein dedans. Est-ce que vous faites marcher votre petite fille ou est-ce que, bon, bah, par facilité, vous utilisez plutôt la voiture, le vélo, la trottinette, ce genre de choses?
Moi, depuis qu'elle sait marcher, sa mère, elle est d'accord avec moi parce qu'on est séparés, elle marche tout le temps. Dès qu'il pleut pas, ou du moins il pleut pas à torrent des trompes d'eau, oui. On va faire des courses à pied. Elle l'emmène chez la nounou à pied. Moi, quand je pars à côté de chez moi, c'est à pied. Et on se promène. Après, bien sûr, je suis pas un bourreau. Quand on fait des longues distances, qu'elle me demande un peu les bras, oui. Ou alors, si je dois sortir parce qu'il pleut à torrent, je vais pas prendre la voiture pour aller faire des courses à 500 mètres de chez moi. En plus, c'est une galère pour se garer. Ça prend en poussette. Mais sinon, je comprends pas les parents qui sont ont leurs enfants de 4 ans en poussette alors qu'il fait super beau. Même des fois, je croise des parents, il y a le grand qui a 5 ans qui est dans la poussette et le petit qui a 3 ans qui marche. Et je ne comprends pas ça. C'est inadmissible. Pour reprendre ce que disait un des intervenants, par exemple, sur les vélos cargo et les gens qui vont bio tous les jours, moi, je vois à côté de chez mon ex-femme, il y a une école Montessori, il y a des vélos cargo garés devant quand ils amènent les gamins. Il y en a une dizaine, une quinzaine, ça bloque complètement le trottoir et la route, quoi. Alors que j'en vois des fois, ils partent d'où mon ex-femme elle habite, c'est à 250 mètres. Faut pas exagérer non plus, quoi.
Bah oui. Et Hervé, vous avez l'impression que c'est de pire en pire ou pas du tout, hein?
Ah oui, c'est de pire en pire. Et de toute façon, maintenant, on se demande pourquoi les générations qui arrivent ne sont pas actives, sont pas courageuses. Faut se poser les bonnes questions. En fait, faut prendre les choses à la base. C'est pareil, je vous avais eu un sujet il y a quelques mois sur l'obésité chez les ados, ceux qui peuvent pas courir au collège, qui n'arrivent pas à faire d'activité physique. C'est inadmissible, c'est pas normal. Enfin, moi, il n'y a pas de bonbons, elle marche. Alors pour l'instant, elle a que 2 ans et demi. Et depuis l'année dernière, on fait des bébés nageurs une fois par semaine. Mais l'année prochaine, elle va aller à la gymnastique ou à la danse parce qu'elle adore danser et faire des galipettes. Voilà, mais on va la garder active.
Génial.
C'est là où on reconnaît les plus courageux plus tard, hein, je pense aussi.
Merci beaucoup Hervé, en tout cas pour ce témoignage. Vous voulez réagir, Baptiste?
Non, je disais, en fait, j'ai du mal à comprendre la position de Jérôme aussi, et de notre auditeur précédent, et de Hervé, là, sur les vélos cargo, parce que...
Avant t'amener tes mômes, t'étais à 500 mètres, en fait.
Bah ouais.
T'amenais ton môme à pied à l'école, et après, tu rentrais chez toi, tu prenais ta voiture. Je dis pas que c'est mieux. Mais en tout cas, tu faisais l'effort. Et quitte à arriver un peu plus tard au travail, un petit peu plus tôt. Aujourd'hui, tu ne veux plus jamais perdre une minute de ton précieux temps à toi.
Ok, je comprends.
Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu mets les mômes sur le vélo cargo, et puis, sociétalement, tellement sympa d'être en vélo cargo, ça fait genre, t'es un papa, hein, souvent. Ah oh là là, t'es un papa tellement génial d'avoir ton vélo cargo. Donc, il y a l'image que ça renvoie, etc. Okay, et en fait, tu fais plus marcher tes mômes. Tu les mets dans le vélo, mais pas pour toi gagner du temps, pas pour lui.
Moi, j'étais en vélo avec ma fille à l'école.
Baptiste Desmoncier.
Elle s'est plantée. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, ah ouais, ça m'a fait un peu peur. C'est plus ça, je comprenais pas l'idée du vélo cargo. Mais effectivement, l'idée, c'est que oui.
Tu les traînes en carriole, en fait.
Oui, en fait, voilà. Si ton enfant a l'âge de pédaler et que t'as les moyens de lui offrir un vélo, qui coûtera trois fois moins cher qu'un vélo cargo, effectivement. Le son vélo et le tien.
Ou tu marches.
Non, mais bien sûr, mais attends. Non, mais le vélo, c'est très bien. Quand tu vas un peu loin, c'est.
Oui, oui.
Alors, Jérôme, tiens, est avec nous. Il est de Boulogne-sur-Mer. Jérôme, et il est éducateur en aviron. Bonjour, Jérôme.
Oui, bonjour à vous.
Jérôme, vous entraînez des enfants qui ont quel âge?
Entre 12 et 15.
Bon, ils savent marcher.
Oui, ils savent marcher. Oui, ça, c'est vrai. Mais on retrouve le goût de l'effort un peu moindre qu'à mon époque, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on les motive au maximum, mais c'est vrai que c'est compliqué de les motiver au quotidien. Voilà.
D'accord. Et vous pensez que c'est parce qu'ils marchent pas assez quand ils sont petits?
Je suis pas sûr à ce niveau-là, mais de les motiver à l'effort, c'est la complexité est là, en fait. Hein. C'est les motiver à l'effort. Moi, je sais, quand j'étais joueur de France d'aviron, c'était du sport tous les jours, en plus des cours à l'école, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de repos et on n'avait pas de réseaux sociaux, par contre. Hein. Moi, j'ai 51 ans, on n'avait pas de réseaux sociaux et on allait au sport tous les jours et on était content d'aller au sport, quoi.
Oui, mais quand vous voyez qu'aujourd'hui les gamins ils passent 3 heures devant les réseaux sociaux, en fait c'est à la place de quelque chose. Donc c'est-à-dire que nous avant effectivement on rentrait de l'école, on avait sport ou je ne sais quoi et les devoirs, et on n'avait pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui c'est d'abord les réseaux sociaux, un peu de PS5 et puis finalement il est déjà 19h et donc vous faites vos devoirs et vous avez plus le temps, quoi.
C'est ouais, mais c'est ça. Mais nous on n'avait pas ça à l'époque. C'est-à-dire que oui, il y avait des consoles de jeux, mais la priorité, c'était, et ça rendait nos parents très très fiers. Moi, j'ai vu mon premier titre de champion de France, mes parents ont pleuré. On pleurait quand j'étais champion de France, quoi. Et pourtant c'était à l'époque pas non plus un sport très 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 médiatisé, mais on se rendait compte de l'effort, quoi.
Oui, voilà. Mais on est content, nous, en tant que parents, parce qu'on vous a tellement accompagné qu'à un moment quand il y a une petite médaille à la fin, on se dit que nous aussi on est récompensé quelque part. Voilà.
C'est vrai que ça a été à plusieurs reprises pour mes parents, mais mes parents étaient sur les bassins et on était vraiment entouré à ce niveau-là, quoi.
Merci beaucoup Jérôme, en tout cas, d'être intervenu dans Estelle Midi. On termine avec des messages, Victor, beaucoup de messages sur le WhatsApp.
Et notamment celui d'Ali qui nous dit qu'il a 2 enfants, 8 et 9 ans. Le matin, on va tous à l'école à pied. De toute façon, les enfants, nous dit-il, vont être à l'image des parents. J'en vois qui arrivent à l'école en voiture alors qu'il y a du soleil et ils habitent à seulement 1 km. J'ai envie de leur demander combien ils payent le litre. C'est vrai que c'est une autre question. On a quand même Ludo aussi qui répond un petit peu et qui dit, j'aimerais qu'on juge pas trop les parents parce que souvent ils font ça parce qu'il faut vite filer au boulot juste après et que c'est vrai que c'est plus rapide pour eux que la voiture déposée devant.
On bossait aussi il y a 20 ans, faut pas croire.
Je le dirai à Ludo.
En fait, il n'y a pas de raison. En plus, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de télétravail.
Il y a 20 ans, tu n'avais pas le visio à 8h15, 8h30.
Ah,
etc.
Ouais.
Moi, je suis persuadé que les rythmes de boulot ont changé par rapport à nos parents.
Il y a du télétravail maintenant, il n'y avait pas ça avant.
On bossait pas, nous.
Et puis, c'était 39h et pas
35.
Moi, je l'ai vécu avec mon ex-femme. On discutait, je disais, mais qu'est-ce qui te colle des réunions? Je sais pas, j'ai pas le choix. Coller des réunions à 8h15, 8h20. Il y a un problème, mais on en a parlé ici.
Mais on a parlé
ici.
Il y a un problème aussi,
je pense, pardon, c'est pas pour eux. C'est pour aller aussi dans le sens de ces messages-là. Il y a un problème de rythme de travail, parfois, dans les entreprises. On n'est pas obligé de se coller des réunions à 8h15.
Mais on avait un rythme bien. On n'avait pas 35 heures il y a 20 ans, donc en fait.
C'est vrai.
Voilà, donc enfin un peu plus de 20 ans. Donc on bossait aussi, vous savez, et on marchait. Et nos enfants.
Vrai, et puis il y a deux parents en fait, voilà, aussi. Raison.
Oui, c'est ça.
Voilà,
oui,
quand il a une réunion à 8h, le papa, il va, il dépose.
Et il me semblait que les nouveaux pères prenaient tellement de responsabilités aujourd'hui, donc pour amener les enfants à pied.
Je vais pas me faire engueuler. Une maman à côté de moi, tu vois, en l'occurrence.
Faut-il forcer nos enfants à marcher, Victor?
Eh bien, on va mettre tout le monde d'accord avec le sondage, c'est un oui à 90%.
Et voilà. Allez, il est 14h. Je suis très contente de ce sondage.
Oui, je vois ça.
C'est l'heure du tu préfères.
RMC, Estelle Midi. Tu préfères.
Tu préfères lire le livre ou regarder le film Yael Mellul, par exemple, Harry Potter, L'étranger.
Ah non, moi je suis une fan absolue du livre. Moi, le livre, c'est sacré. Le livre papier, j'entends, pas les liseuses là. Et après, je peux voir éventuellement l'adaptation film, mais je suis systématiquement déçue.
Bah oui.
Voilà, systématiquement.
T'as lu le livre?
Bah oui, évidemment. Mais voilà, non, moi c'est le livre. Tu as, tout à l'heure tu as cité L'Adversaire. Le livre, ouais, il est absolument. Mais lisez-le. Il est fantastique. Ah ouais. Le Comte de Monte Cristo. Faut lire le livre. C'est un chef-d'œuvre.
Le film est moins bien.
Voilà, il est sympa le film.
Oui, c'est
avec
sympa.
Niné, il est sympa, mais
ça prend moins de temps que de lire le livre.
Mais oui, mais c'est tellement beau français. C'est faux. Voilà, on se nourrit spirituellement. C'est tout quoi. C'est beau de lire. Voilà, il faut lire.
Baptiste Desmoncier.
Je suis entouré de liseuses, moi. J'ai que des femmes qui lisent énormément autour de moi. Et moi, alors moi, je suis un TDAH, un vrai TDAH. Et j'ai beaucoup de mal à lire. C'est pas un choix. C'est pas, moi, je peux lire un bouquin pour le boulot, par exemple. Mais il me faut que je prenne des notes à côté. J'ai besoin d'avoir un surligneur, etc. La lecture plaisir, c'est hyper complexe pour moi. Donc, je les regarde, les filles, à la maison, ça bouquine. Dans tous les sens. Mon ex-femme bouquine, mon ex-belle-mère est libraire. Donc, je regarde ça avec beaucoup d'envie et paradoxalement, ma réponse c'est le film parce que j'ai énormément de mal à soutenir mon attention à lire un livre. C'est mon cerveau, il est comme ça. Donc j'ai souvent beaucoup de belles surprises dans les films parce que j'entends parler des livres géniaux et je les découvre après. Mais j'ai aussi de super souvenirs de lecture. Mais ça a été compliqué. Pourtant, j'ai fait des études de littérature, etc. Donc,
Non, mais
c'est parce que c'était le boulot. Fallait que j'apprenne, fallait que je lise, fallait que je fasse des fiches de bouquins.
J'arrive à lire pour le boulot, mais pas pour le plaisir.
Exactement. J'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Voilà.
Bah écoutez, mais très bien, Baptiste, il n'y a aucun problème.
Et donc, c'est pour ça que je suis.
Mais on ne vous juge pas, Baptiste.
Il a l'air d'être tellement classe. Non, mais parce que c'est tellement classe de dire ouais, j'ai pas aimé l'adaptation au ciné. Moi, je suis là, j'ai pas lu le bouquin parce que j'arrive pas à lire les bouquins. J'ai du mal. Donc, moi, j'ai adoré le Comte de Monte Cristo, mais que j'avais lu aussi, je crois. Oui, je l'ai
mais
lu.
Pour le boulot. Pour le bac,
exactement.
Jérôme Lavrieux.
J'avais adoré la une du Gorafi qui avait dit face au succès du film sur le Comte de Monte Cristo, ils envisagent de le sortir en livre.
C'est
drôle. Moi, c'est le livre avant tout, en fait. Le livre avant tout. Parce qu'en fait, quand vous lisez un livre, c'est pas juste des caractères, c'est que vous avez des images, vous êtes le propre metteur en scène de l'histoire que vous voyez. Ouais. Et vous êtes déçu par la vision du metteur en scène, du mec qui fait le film, en fait. Et à chaque fois que j'ai découvert une œuvre en voyant le film, et j'ai dit je vais acheter le livre, j'ai toujours été déçu. C'est dans ce sens-là, ça marche pas, en fait.
Un exemple, pardon.
Et pardon, moi, les livres, c'est un de mes plus gros budgets, donc
pareil.
Voilà.
Moi, j'ai un exemple d'un livre que j'ai lu, qui est Le Parfum de Susskind, j'avais adoré.
Ah bah ça,
et le film est top, mais pareil, c'est vraiment quelque chose qui fait appel à l'imagination, donc oui, mais effectivement.
Les Illusions perdues aussi, hein. C'est un gros.
Et pourtant un bon film aussi.
Très bon film. Exactement. Très très bon film. Mais bon.
Mais c'est
Balzac,
pas pareil.
Quoi. Bah oui.
Alors, justement, on vous a posé la question. Voir le film comme Baptiste Desmoncier ou lire le livre comme Jérôme Lavrieux et Yael Mellul.
Ah mais ça va peut-être vous étonner, mais c'est voir le film qui l'emporte à 62% des votants.
Soutenez les libraires qui vont mal en ce moment.
Achetez des livres.
Les cinémas vont pas mieux. Hein.
Achetez des livres, revendez-les sur eBay et allez au cinéma. Ah. C'est une solution.
RMC Conso dans un instant. Charlotte Mériton, vous faites peut-être partie de ces Français qui avaient mis un petit peu d'argent dans Duralex pour essayer de redresser l'entreprise. L'entreprise va mal. Est-ce que vous allez revoir votre argent? C'est la question qu'on a posée à Charlotte Mériton. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est 14h31, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, et tout de suite on parle conso, on parle argent avec Charlotte Mériton.
Estelle Midi,
RMC Conso.
Et on s'intéresse aujourd'hui, Charlotte, au verrier Duralex qui est en redressement judiciaire. Pourtant, l'entreprise pensait redresser la barre, avait même proposé aux Français d'investir. Duralex avait réuni tout de même 5 millions d'euros donnés généreusement par les Français, enfin prêtés. Mais maintenant, la question c'est, qu'est-ce qui va se passer pour les investisseurs? Parce que il y en a, ils ont donné 1000, 2000, 5000 euros en espérant les revoir et même revoir plus.
Alors c'était plafonné à 1000 euros justement, peut-être en prévision du risque, parce que c'est vrai que la promesse était belle, peut-être un peu trop belle. Vous donniez donc entre 100 et 1000 euros et ça offrait droit à une défiscalisation de 18%, mais surtout à un rendement de 8% sur 7 ans. Il n'y a pas beaucoup de placements qui promettent un tel gain. Et pour cause, 8%, c'est le taux d'un placement qui est très très risqué. Là, on est seulement 7 mois après cette levée de fonds qui date de novembre dernier et malheureusement, ça se casse un petit peu la figure.
Et combien de Français avaient donné ?
21 000 Français qui croyaient au projet, qui avaient accepté de prendre le risque avec un ticket moyen de 900 euros, donc tout de même beaucoup d'argent. Et c'est vrai que Duralex est une entreprise iconique, tout le monde a déjà bu dans les fameux verres Picardie, lu son âge au fond du verre, etc. Alors les investisseurs, c'était plus des gens qui étaient des nostalgiques que véritablement appâtés par le gain potentiel. Mais c'est vrai que dans tous les cas, on pouvait se douter du risque, puisqu'avant ce dernier redressement, Duralex avait connu 4 redressements judiciaires en une vingtaine d'années. L'entreprise avait tenu bon avec sa reprise par ses salariés au moment en 2024 et les chiffres en 2025 étaient prometteurs, même si c'est vrai que son dirigeant n'a jamais caché que Duralex n'était pas encore sauvé.
Et où sont passés les 5 millions d'euros ?
Alors, il devait servir à investir dans de nouvelles machines, à financer de nouveaux moules également. Et aujourd'hui, l'entreprise justifie ses difficultés, notamment par la hausse du coût des matières premières et de l'énergie en début d'année. Alors, c'est quasiment impossible de savoir véritablement où sont passés ces 5 millions d'euros, bien sûr.
Oui, enfin, je ne veux pas balancer, mais je suis allée sur le site et il y avait des sweatshirts en vente. Donc, les 5 millions d'euros, ils sont aussi passés dans des sweatshirts et on voit pas très bien ce que viennent faire des sweatshirts sur le site de Duralex, voilà, ce qu'ils viennent faire des goodies.
C'est une tentative, je pense, pour diversifier l'offre et justement surfer sur la vague de la mode autour de Duralex et
mais quand tu donnes 1000 euros en fait pour redresser une entreprise et voilà qui est une entreprise qui a des dizaines et des dizaines d'années, qui fait quelque chose qui est le vert, était attaché à l'entreprise et payer les salaires, etc., et que tu te retrouves avec des suites sur le site, je suis pas sûr que les gens aient payé pour avoir des sweatshirts collector.
Petit manque de cohérence, peut-être. Ouais.
Est-ce que ça veut dire, pour ces 21 000 Français, que l'argent est perdu?
C'est pas encore perdu, puisqu'on est sur un redressement judiciaire, pas une liquidation judiciaire. Donc, l'entreprise n'est pas fermée. Elle est en redressement à cause de tensions de trésorerie. Donc, plus simplement, ça veut dire qu'elle ne peut plus rembourser ses dettes. Et ce qui va se passer, c'est qu'un administrateur va chercher à en geler certaines pour que l'entreprise puisse reprendre un petit peu du poil de la bête. C'est une période d'observation qui démarre, donc, d'incertitude de 6 mois. Et en cas de faillite, oui, malheureusement, l'argent sera très probablement perdu, puisque quand vous achetiez des actions chez Duralex, être investisseur, c'est un petit peu comme acheter un petit morceau de l'entreprise. Ah ouais. Donc forcément, quand il n'y a plus d'argent, on tombe pas un œuf. Dans ces cas-là, l'entreprise, quand elle ferme, ce qui reste sur les comptes, ça sert d'abord à payer les impôts, l'URSSAF, les salariés, et les investisseurs arrivent en dernier.
Est-ce qu'il y a un moyen de rester quand même optimiste ?
Duralex assure que son plan de transformation commerciale commence à porter ses fruits. Donc oui, je ne sais pas si ce sont les sweatshirts qui sont efficaces ou les verres. En tout cas, la plateforme d'investissement qui a reçu les 5 millions d'euros, puisque tout ça passait par un intermédiaire, a assuré aux investisseurs que les résultats commerciaux et le carnet de commandes, peut-être des sweatshirts, qui sait, étaient encourageants. Donc oui, on peut quand même rester optimiste. Si vous voulez sauver Duralex, bon, la seule solution, ça reste d'acheter
des verres
ou autre chose si vous voulez des goodies, ça servira toujours à l'entreprise, mais c'est vrai que les verres, c'est le produit de la marque. Le pire ennemi de Duralex,
ils ont beaucoup augmenté. Et puis en fait, il y a tellement de gammes. Alors que ce que voulaient les gens, c'est quoi? C'est le vert avec le petit numéro au fond. Mais maintenant, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes. Il y en a tellement, en fait.
Parce qu'ils ont tenté justement de se renouveler, de proposer quelque chose de différent que ce qu'on retrouve partout.
Ils devraient se recentrer sur les verres de cantine. On est tous nostalgiques du verre de cantine que vous voyez derrière nous si vous êtes sur RMC Story, ou du verre rond avec de petits numéros.
Ils les font encore, bien sûr.
Mais ils font pas que ça.
Non, ils font pas que ça, mais ils doivent faire face à une concurrence chinoise qui est vraiment qui est leur pire ennemi, qui prend toute la place, qui prend tout le marché, des consommateurs qui cherchent les prix bas avant tout et qui vont trouver 6 verres pour 1,50€, alors que ceux de Duralex sont plutôt autour de 6 ou 7 euros minimum. Ouais. Donc forcément, c'est une concurrence qui est très rude et ça explique les difficultés
de
Duralex.
Et le problème de Duralex, c'est sa qualité, c'est-à-dire que c'est tellement ça marche tellement bien, ça ne se casse jamais, donc en fait tu les changes pas.
C'est
ils ne changent pas parce qu'ils sont de super bonne qualité.
Oui. Voilà, il y a un peu un taux de renouvellement qui est assez faible, c'est vrai.
Et tout le secteur du verre a du mal. Hein. Saint-Gobain, tout le secteur du verre en France a du mal.
Oui, il y a Arc aussi qui a été en redressement.
Il y a beaucoup. Voilà, c'est une industrie qui souffre.
Donc, achetons des verres Duralex. Nous avons besoin de verres. Essayons d'acheter des verres Duralex pour vous sauver cette société qui fait partie du patrimoine industriel français.
Et les investisseurs qui ont donné un peu de sous là-dedans et qui aimeraient bien revoir leur argent, sans doute, mais c'est sans certitude. Ils connaissaient le risque.
Voilà, on a bien compris que, évidemment, un placement à 8%, c'est forcément un placement risqué. Merci beaucoup, Charlotte Méritant, de nous avoir éclairé sur la situation de Duralex. On parle de quoi demain?
On va parler du rachat de SFR. Vous en avez forcément entendu parler.
Oui.
Est-ce qu'il y aura des conséquences pour les clients et surtout sur les prix des forfaits mobiles dans les mois à venir?
Merci beaucoup, Charlotte Méritant, RMC Conso, tous les jours, 14h30, dans Estelle Midi. Dans un instant, place aux immanquables de Victor. Les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. À tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
14h42, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et tout de suite, voici les immanquables de Victor.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Et on démarre, Victor, avec le licenciement du jour.
Un licenciement pour faute grave confirmé d'un chauffeur de bus scolaire en Haute-Vienne. Il s'appelle Damien Tabar, 17 ans de service dans la campagne de Limoges. Alors, qu'est-ce que sa faute grave? Eh bien, c'est d'avoir déposé des élèves directement devant chez eux plutôt qu'aux arrêts officiels. Un geste qui était salué plutôt par les parents. L'exemple d'une collégienne qui devait marcher sinon 700 mètres dans le noir en hiver depuis l'arrêt jusque chez elle. Sauf que la compagnie de bus, elle, voulait un strict respect des règles. Ces arrêts sauvages, c'est vrai, sont interdits. La justice vient donc de confirmer ce licenciement. Notez, ironie de l'histoire, qu'après cette affaire, les arrêts de car ont finalement été revus pour sécuriser le parcours des enfants.
Oh. Non mais on marche sur la tête quand même, Jérôme Levrieux.
C'est ubu. C'est ubuesque. Voilà. C'est que, enfin, on en revient au débat qu'on a eu précédemment. C'est que quand tu retires l'humain des procédures, les procédures ne sont que ce qu'elles sont, quelque chose d'inhumain, en fait. Voilà. Et donc, on en revient à l'affaire de tout à l'heure où on a respecté la procédure, on a transmis. Voilà. Et puis, on s'occupe pas à savoir s'il y a un nom à un enfant derrière. Ben là, c'est pareil. Et puis on se serait dit, tiens, il s'est fait accoster par une camionnette et le gamin était embarqué. On dirait, ah bah oui, mais l'abri, il est pas au bon endroit. Ben voilà. Donc on a un type qui a fait son boulot, qui est, en fait, quand c'était pas le même propriétaire qui avait la compagnie de car, il y avait une tolérance, il a continué à faire pareil. Et puis il y a un nouveau chef qui a eu envie de chefer.
C'est ça.
Et avec qui ça s'est mal passé, ils se sont engueulés apparemment, et ça a fini au prud'homme. Mais mettez de l'humain dans les sujets, mettez de l'humain, les gars.
Mais ça aurait pas dû être une initiative personnelle. En fait, ça aurait dû être encouragé par la société de bus et validé. En fait, c'est ça le truc.
Oui, mais je pense que le bon manager, c'est celui qui laisse la place aux initiatives personnelles quand elles sont positives. C'est ça aussi le management.
Il a dû tomber, le patron, ça devait être un petit tyran.
On n'en sait rien, on va pas accuser, questions de responsabilité juridique. S'il l'a déposé à un endroit.
Question d'assurance, oui, mais justement.
S'il l'a déposé à un endroit, qu'il y a une voiture qui déboule, qui renverse le gamin, on va pas mettre en cause le truc.
Et si tu déposes les autres en retard aussi,
effectivement, un problème d'assurance, mais preuve en est qu'après, ils ont modifié les arrêts. Donc, il y avait moyen de modifier. Voilà, pour être et tout dans l'intérêt supérieur des enfants, parce que c'est quand
ça
même
tombe mal avec l'actualité en ce moment.
Que c'est pour sécuriser les gamins, donc.
Oui, je pense que ça. Alors déjà, c'est ce qui se passe dans la banlieue de Limoges ne passerait pas à Paris. Il y a une tolérance là-bas, ça veut bien dire qu'il y avait un problème et qu'il y avait une solution qui était acceptée par l'ancien employeur. Moi, je trouve que ça sent pas mal le nouveau patron qui arrive et qui veut, c'est les employés un peu anciens qui coûtent un peu plus cher. Enfin voilà, ça sent quand même le gros prétexte pour foutre un mec dehors.
C'est
quand même pas le bout du monde. Oui. Non mais qui se couvre, c'est
il
une
se
chose.
Il se couvre comme dit Jérôme, s'il y a un problème, on va te dire qu'est-ce qu'elle faisait là cette gamine à ce moment-là.
Une tolérance, c'est-à-dire la problématique juridique, elle existait pour l'ancien l'ancien employeur. Donc le nouveau, visiblement, est un sale con.
Non, ça vous pouvez pas dire ça. Ça c'est pas. Ben non, ça non, c'est pas possible. Dire, voilà, c'est pas... Ben non, non, en fait, on peut pas
oui.
dire ça en fait.
Bon,
ben,
c'est pas.
Ben,
très...
ben non, c'est pas possible. Le don du jour.
Le don du sang, grande mobilisation, grand appel de l'établissement français du sang à l'approche de la journée mondiale des donneurs de sang. Ce sera dimanche et c'est le moment de soutenir, le moment de donner. Parce qu'à ce jour, il manque 15 000 dons en France. En cause, les nombreux jours fériés de mai, figurez-vous, parce que c'est moins de fréquentation dans les collectes. L'épisode de chaleur aussi, parce que ça signifie des annulations de ces mêmes collectes. Tout cela juste avant l'été, période évidemment de forte demande.
Ah, donc allez donner votre sang. C'est hyper important, il y a beaucoup de gens.
Je l'ai jamais fait.
Ah non, c'est pas possible. Ouais. Allez, allez-y.
Donc plasma.
Exactement.
Donc plasma aussi.
Plaquettes également. Voilà. Et voilà, vous avez beaucoup d'enfants notamment qui ont besoin d'être transfusés, des accidentés de la route, etc. Et
très important.
Et ça peut sauver des vies. Donc franchement, allez-y, faites ce petit effort entre guillemets.
J'ai l'impression qu'il y avait plus de bus de collecte avant. Ouais. Bah, il y en avait quand j'étais à la fac, il y en avait beaucoup. J'ai l'impression qu'on en voit moins.
Moi, j'en vois pas beaucoup.
De collecte. Non, mais t'en as beaucoup dans les villages, des collectes, dans les gymnases,
exactement.
Etc. qui sont organisés de manière régulière.
Et il faut y aller parce qu'on peut tous avoir besoin, sûrement, ou nos enfants d'avoir besoin d'une. D'une transfusion ou d'une poche de sang. Donc allons-y, mobilisons-nous. Voilà, c'est une belle cause, ça prend pas longtemps. Donc allons-y, tous faire notre don du sang. On va passer au prix cassé du jour.
Ça va peut-être vous intéresser, ceux des hôtels de luxe à Dubaï, évidemment fortement impacté par la guerre en Iran. Oui. C'est simple, il y a une désertion quasiment totale des touristes étrangers, les taux d'occupation se sont effondrés. Alors ces établissements de luxe, ils ont tout simplement décidé de diviser par 4 certains de leurs tarifs. Alors oui, mais pas pour tout le monde, figurez-vous.
Ah bah non, j'ai regardé, non. Okay. J'ai regardé une semaine, je me disais, tiens, profitons-en, on va aller regarder ça. À l'Atlantis, vous savez, cette espèce d'hôtel absolument gigantesque, à Dubaï, avec un aquarium géant, un parc aquatique et tout, je me suis dit, tiens, bon bah une semaine, c'est toujours 8000 euros. Hein, donc,
oui, non,
ça n'a pas baissé, quoi.
Mais parce qu'en fait, c'est réduit pour les touristes locaux, ceux de la zone, ceux qui n'ont pas forcément à faire le voyage en avion. Et ça a plutôt bien marché, parce que conséquence, 90% d'occupation le week-end, parce qu'ils viennent que pour quelques jours. Ça reste quand même seulement 20 à 30% du lundi au jeudi.
D'accord. Et ils veulent pas le baisser pour les autres.
Je vais les appeler.
Ouais, appelez-les, Victor. Tu es déjà allé à Dubaï?
Oh non, il y a encore moins.
Ah, alors j'enlève rien.
Super cher.
Ben, quand vous êtes allé quand? Avant, c'était pas cher. Hein, il y a 5 avant le Covid, c'était pas cher.
J'y suis allé 2 fois en voyage officiel, en fait.
Ah.
Une fois pour passer un réveillon.
Donc tout frais payé, alors.
Mais ça coûte blinde. Bah, voyage officiel, vous restez 24 heures sur place, vous repartez. Donc c'est pas. Et une fois pour un réveillon. Enfin, fin d'année. C'est vachement bien. C'est très, très, c'est génial. Il y a une atmosphère qui est extraordinaire. La sécurité, à l'époque, était assurée sans aucun problème. Liberté d'agir, de consommer, etc. Bon, c'est totalement artificiel.
Bah oui.
Mais une très belle atmosphère. Moi, j'avais beaucoup aimé. Mais c'est plus dans mes moyens.
Ah bah non, c'est devenu, c'est devenu extraordinairement cher. Alors qu'avant, c'était plutôt, je parle de ça.
C'est cher et risqué, hein, parce qu'ils se sont pris quand même pas mal de.
Bah ça l'était moins il y a 10 ans.
Oui, mais là, voilà.
Bah oui, là, c'est, oui, c'est-à-dire que tu te dis, est-ce que je vais aller à Dubaï?
Je miserai pas dessus, moi.
Non, moi non plus, parce que je suis pas sûr de revenir.
Bah voilà, c'est ça.
Du coup, d'avoir ton avion et
tout. Tu rester bloqué? Non.
Il y a des personnes qui étaient restées bloquées plusieurs semaines.
Bah bien sûr. Vincent Moscato.
Était
resté bloqué. Vous n'êtes pas allé faire de reportage à Dubaï, Baptiste Desmoutiers?
Jamais. Et je peux vous assurer que ça ne me manque pas. Non, c'est pas une destination qui m'attire. Il y a tellement de belles choses à voir partout dans le monde.
Il y a des trucs très beaux. Dans le coin, il y a des trucs.
Bah oui, bien sûr.
À Dubaï,
le musée, le Louvre d'Abu Dhabi.
Oui, d'accord. Ok. Oui. Mais il y a plein d'autres. J'ai rêvé d'aller en Jordanie. J'irai en Jordanie avant d'aller à Dubaï.
Ah oui, c'est autre chose. On va passer à l'innovation du jour.
On la doit au monde politique, figurez-vous. C'est le Rassemblement National qui a lancé sa version interne de ChatGPT, une IA à qui vous posez des questions, qui vous répond. Elle est surtout en fait à destination de ses propres élus au RN pour ne pas se faire piéger. Je vous explique. Elle est nourrie par des discours de responsables du parti, des tribunes, des votes du parti à l'Assemblée et un petit peu du programme pour la présidentielle. présidentielle 2027 qui est en train d'être élaborée. L'objectif, c'est de permettre à ces élus RN de pas dire n'importe quoi. Bah, si oui. On les coince,
ils posent une question à l'appli. Comme c'est arrivé parfois.
Ça a pu arriver de temps en temps. Ils posent une question sur l'appli et en quelques instants, ils ont les bons éléments de langage. C'est ça le but.
Oui, mais comme ils n'ont pas les... Par exemple, quand un élu RN fait un direct à la télévision, a priori, on ne leur donne pas nos questions. Donc en fait, comme ils n'ont pas les questions, comment ils font pour se faire aider par ChatGPT?
Mais je pense que c'est surtout...
C'est-à-dire qu'en direct, ils disent
par thème, c'est par thème, ils ont les éléments de langage.
Je comprends rien. On nous a dit qu'ils les avaient choisis pour leurs compétences.
Oui. Oh, mais arrête, enfin, Jérôme, tous les partis politiques, c'est comme ça.
Ah, mais je dis la même chose pour tous les partis politiques, t'inquiète pas.
En Marche, Renaissance, les éléments... je ne sais plus comment ils s'appellent, ils ont
Je dis juste pour les partis politiques, des éléments de langage, j'ai passé une partie de ma vie professionnelle en rédiger. Voilà. Mais c'est totalement con. Les éléments de langage, c'est pour quelqu'un qui n'arrive pas à penser par lui-même.
Non, mais c'est pour tout le monde dit la même chose. Parce que si t'en as, par exemple, la retraite, typiquement, on ne sait pas très bien ce que pense le RN. Parce qu'à un moment, c'est 60, à un moment, c'est 62. Donc là, tu demandes à ChatGPT, qu'est-ce qu'il faut que je dise?
Ouais, mais enfin, donc, ni Jordan Bardella, ni Marine Le Pen ne consultent le ChatGPT du Rassemblement National, parce qu'ils disent l'inverse tous les deux.
Bah oui.
Donc c'est à eux de se mettre d'accord.
Et au pire, s'ils se trompent, ils pourront dire, c'est l'IA qui a bugué.
Voilà. Ils auront toujours franchement convoquer l'intelligence artificielle dans l'intelligence artificielle j'entends surtout artificielle.
Oui, mais comme c'est un parti à deux têtes, bah comme ça tu fais la synthèse, tu vois, ça leur permet aux élus que ce soit plus clair.
Qu'ils se voient dans le même bureau puis qui nous disent après ce sur quoi ils sont d'accord.
En tout cas, voilà, cette intelligence artificielle.
Peut-être que l'IA va bugger entre Jordan Bardella et Marine Le Pen, on ne sait pas.
Il va falloir que l'IA les mette d'accord, pour le coup. Et on termine avec la disparition du jour.
Alors, celle qui n'est pas encore actée, mais qui est possible, de Roland Garros, gratuit et en clair à la télévision. La finale, vous le savez, c'était hier. Maintenant que tous les joueurs sont partis, eh bien, les négos vont commencer. L'année prochaine, ce sera la dernière édition sous contrat avec deux diffuseurs, France Télévisions et Amazon. Mais France Télé pourra-t-elle rempiler? L'État, vous le savez, lui demande 15 millions d'euros d'économies. Dernièrement, France Télé a vendu 9 matchs de l'équipe de France de rugby. Ouais. Selon les estimations, la télé publique met 15 à 20 millions d'euros pour avoir les droits de Roland Garros. Et ça, c'est juste pour les droits. C'est sans compter les coûts de production. Donc, on ne sait pas s'ils vont être capables de se positionner.
Ouais, mais ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, Roland Garros sur le service public, c'est formidable. Voilà. Et quand quelque chose est bien, bah, il faut le dire. Et ils ont fait une formidable couverture de Roland Garros. Il y a des consultants exceptionnels, les journalistes sont bien, il y a une très très belle couverture, et sur trois chaînes, hein, France 4 le matin, France 3, France 2, et pour les amoureux de sport, on ne pourra pas avoir mieux sur ailleurs, ou alors en payant.
Et voilà, en payant.
Et mais même c'est, maintenant, avec l'application, on pouvait aller voir tous les cours annexes, enfin, il y a vraiment une très très grosse couverture.
C'était vraiment formidable.
Public, ça coûte cher.
Voilà, ils ont fait un boulot absolument génial, et il faut le dire. Nous sommes tout de suite avec Pierre Dorian, le super Moscato Show et la Coupe du Monde qui approche. Bonjour Pierre.
La Coupe du Monde approche, mais on va démarrer par Roland Garros justement.
Ah, Zverev.
Alors Zverev, est-ce le déclic, Estelle? Est-ce qu'il va en gagner d'autres maintenant?
Ils seront peut-être pas toujours blessés, les Sinner et Alcaraz.
Il s'est passé quelque chose dans sa tête, là. Peut-être qu'il s'est débloqué, non? J'ai vu un mec qui jouait avec la peur hier.
Bah oui, bien sûr.
Dingue cette finale, non?
Quand Koboli gagne le quatrième, on se dit aïe, ça va recommencer.
C'était pas une finale d'un gros niveau.
Par contre,
c'était intéressant.
Ouais, c'est vrai.
Savoir lequel allait tenir, lequel allait craquer en fin de compte. Hein.
Ouais, et puis bien ce petit Koboli, là, quoi. C'est pas très bien.
Tu crois pas trop à Zverev, j'ai l'impression. J'ai l'impression que tu ne crois pas trop à Zverev.
Non, parce que je pense qu'il n'a pas le mental des deux autres. Voilà, tout simplement.
Alors ensuite, l'équipe de France, est-ce que vous les attendez au tournant ce soir? Il y a le deuxième match de prépa face à l'Irlande du Nord. On a perdu contre la Côte d'Ivoire.
Bah oui, ce serait mieux là quand même de faire un petit truc là.
Il en faut 5 ce soir.
A priori, avec l'équipe type.
Oui, puis avec ce qu'a dit Ryan Cherki, il va falloir les écraser quand même, ces Irlandais là.
Mais bon, on va jouer, comme le disent aussi souvent les joueurs, les techniciens, etc. Les matchs de prépa, dès que la compète commence, on les a oubliés.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire que quand on jouera le Sénégal dans 10 jours.
Mais dans ta tête, si tu gagnes pas là ce soir avec pas la manière, mais au moins 2-3 d'écart, ça commence à tourner quoi. Tu as perdu contre le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tu vas jouer le Sénégal. Le Sénégal c'est fort, hein, là si tu fais pas un gros résultat contre l'Irlande, à mon avis, tu commences à flipper un peu quand même.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore au programme? Bordeaux éliminé avant les playoffs, est-ce que c'est grave, docteur?
Très.
Toujours le rugby, je sais que je n'attends pas grand-chose en retour. C'est pas grave. Il y a aussi la NBA, match 3 la nuit prochaine à New York cette fois-ci. Donc là, est-ce que vous croyez au miracle hein?
Non.
Les Spurs menaient 2-0, ça peut arriver.
Ouais,
là, je le dis,
mais...
Estelle, une série en play-off de NBA,
ça peut
basculer. Parfois, ça arrive.
Moi, j'y crois pas des masses.
Mais si ça doit basculer, c'est cette nuit. Hein.
Ok.
Après, je pense que ce sera trop tard.
On regarde. On écoutera ça avec énormément d'attention. Merci beaucoup, Pierre Dorian, le super Moscato Show. Nous, on se retrouve demain dans Estelle Midi, midi 15h. Et n'oubliez pas les podcasts, rmc.fr, l'appli RMC et toutes les plateformes de téléchargement. À demain.